Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient et sélection du Reader's Digest. Au programme, archives criminelles. Et faut-il cesser de voyager? Bonne écoute.
Archives criminelles. Un texte de Sylvain David, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. La bonne nouvelle, c'est qu'on a résolu nos intrigues d'Hercule Poirot du Calice, grommelle un personnage de l'excellente deuxième saison de « C'est comme ça que je t'aime », signalant par là que les trames narratives mises au point par Agatha Christie sont désormais connues de tous et qu'elles peuvent, par le fait même, être perçues comme des clichés irritants. Pourtant, les crimes en huis clos et les détectives amateurs continuent d'abonder en littérature, de même qu'au grand et au petit écran. Si certaines de ces productions sont ouvertement nostalgiques, se contentant d'actualiser une forme maintenant canonique, d'autres, à l'inverse, jouent avec les procédés et par conséquent avec les attentes du lecteur ou du spectateur. C'est le cas de deux séries récentes, Only Murders in the Building et Aller Simple, qui détournent l'une par l'ironie, l'autre par le métissage des genres, le modèle classique de la fiction de meurtre et mystère. Only Murders in the Building de Steve Martin et John Hoffman, Yulu 2021, a pour cadre un immeuble résidentiel élégant du Upper West Side de New York. Y habitent notamment Charles Haden Savage, Steve Martin, un acteur septuagénaire qui s'accroche à sa gloire passée de vedette d'une série policière d'il y a 30 ans. Oliver Putnam, Martin Short, du même âge, un metteur en scène fantasque et irresponsable avec qui plus personne ne veut travailler après une série d'échecs, et Mabel Mora, Selena Gomez, une jeune femme branchée mais réservée au mode de vie généralement énigmatique. Dissemblables à bien des égards, les trois personnages se découvrent un intérêt commun pour un balado de true crime, documentaire criminel, qu'ils suivent avec assiduité. Lorsqu'ils apprennent le suicide d'un de leurs voisins, qu'ils avaient croisé par hasard dans l'ascenseur peu de temps avant son décès, ils considèrent sa mort comme suspecte et décident de mener leur propre enquête, en dépit du fait qu'aucun d'entre eux n'a la moindre expérience dans ce type d'activité. Oliver, ravi d'avoir à nouveau un troupeau à diriger, propose de documenter leurs efforts sous la forme d'un balado, ce à quoi Charles et Mabel, sans grand enthousiasme, consentent. Cette mise en situation dysfonctionnelle ouvre à divers effets comiques. L'incompétence des détectives amateurs est régulièrement soulignée par leur incapacité à imiter les modèles dont ils se réclament et qu'ils ne cessent de citer. Le personnage de Charles, qui ne peut s'empêcher de piger dans le répertoire de son succès d'antan, est à cet égard particulièrement réussi. L'absence de talent du trio dans la production d'un balado est également mise de l'avant. La figure d'Oliver, toujours tentée par la grandiloquence creuse de Broadway, insuffle une dose d'absurdité à l'ensemble qui fonctionne parfaitement. Dans un autre registre, le choc des générations au sein de la fine équipe est très bien exploité. Steve Martin et Martin Short sont, sans surprise, excellents dans des rôles d'idiots imbus d'eux-mêmes, alors que Selena Gomez étonne avec son personnage de millénarial sarcastique à l'expression illisible mais aux répliques toujours cinglantes. Des figures secondaires hautes en couleur contribuent en outre à l'atmosphère d'ensemble. Les résidents de l'immeuble, tous des caricatures de New-Yorkais sophistiqués et fortunés. L'animatrice du balado qui inspire le trio, Tina Fey, dont les interventions moquent bien les poncifs du genre. Le chanteur Sting, qui s'amuse à offrir une parodie de lui-même. voisin malheureux des enquêteurs et suspect irrité de leur investigation maladroite. Sous ces abords comiques se cache toutefois une dimension plus tendre. Charles et Oliver sont non seulement des has-been, mais aussi des ratés dans la mesure où leur vie personnelle s'avère encore plus désastreuse que leur carrière. Ils ont créé un vide autour d'eux et ont repoussé ou déçu tous ceux qui les aimaient. Mabel est également très seule, bien que les raisons de cet isolement ne soient précisées que plus tard dans la trame narrative. L'enquête, si déficiente ou minable soit-elle, est ainsi l'occasion d'une rédemption, trope complémentaire de ce type de récit qui fait moins l'objet d'une relecture ironique que le reste. Cette part d'introspection des personnages est bien mise en valeur par la trame visuelle de la série. Charles hallucine des interactions avec Bugs Bunny et Porky Pig, des dessins animés Looney Tunes. Oliver se projette dans une chorégraphie onirique conçue autour d'un escalier et d'une trampoline. Mabel dessine ce qu'elle n'arrive pas à exprimer ouvertement. Ce cumul des tonalités et des approches formelles confère une réelle profondeur à la série. On est d'abord accroché par le ridicule des personnages, par cette relecture ironique du récit à énigmes, puis, peu à peu, on s'attache malgré tout à eux, leur découvrant une substance que les figures classiques de ce type de fiction ne possèdent pas toujours. Tout ceci, non sans paradoxe, n'empêche pas « Only Murders in the Building » d'être aussi un récit captivant d'investigation. L'approche tour à tour ironique ou artistique de la série fait en sorte que les retournements les plus énormes de l'intrigue ne détonnent pas nécessairement, ce qui permet de ménager des surprises constantes. Par exemple, dès la fin du premier épisode, on comprend que Mabel, très réservée quant à sa vie privée dans ses échanges avec Charles et Oliver, connaissait en fait la victime, un élément d'une importance capitale qu'elle a choisi de cacher à ses deux comparses. De manière cette fois entièrement fidèle au canon du genre, tout dans ce récit n'est que leurre et faux semblant. Vous écoutez Archives criminelles, un texte de Sylvain David, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. Aller simple, de Annie Pierrard, Bernard Dansereau et Étienne Pierrard Dansereau, nouveau 2022, nous plonge dans une région reculée du Québec. L'action débute alors que sept individus prennent place dans un hélicoptère pour se rendre au domaine d'un célèbre milliardaire où ils ont été conviés sous divers prétextes. Le groupe est constitué d'une directrice de marketing, Annie Pascal, d'un ancien policier, Samian, d'un professeur d'université à la retraite, Luc Picard, d'un avocat criminaliste, Éric Bruneau, d'une femme d'affaires, Caroline Davernas, d'un marchand d'art, Rémi-Pierre Paquin, et de sa maîtresse, Nathalie Doumard, une ingénieure qui n'a pourtant pas reçu d'invitation. Ces personnages, hormis le couple, ne se connaissaient pas au préalable, et ils n'ont en outre jamais rencontré leur hôte. Tandis qu'ils survolent une vaste étendue forestière, le pilote, Marc Beaupré, semble perdre le contrôle de son appareil, ce qui motive un atterrissage d'urgence. La situation est d'autant plus critique que la radio ne fonctionne apparemment plus et que la zone est dépourvue du moindre signal cellulaire. Par un étonnant hasard, les personnages découvrent un vaste chalet avec des réserves de nourriture et ils se résignent à s'y abriter en attendant les secours. Or, à mesure que passent les heures et puis les jours, plusieurs d'entre eux sont victimes d'accidents mortels. Alors que « Only Murders in the Building » adopte un ton ironique ou humoristique, ce qui crée une certaine distance par rapport à l'intrigue malgré l'attachement que l'on peut développer pour les personnages, Aller simple mise au contraire sur un effet viscéral. Si le petit groupe réfugié dans le chalet isolé peut d'abord croire à une série de mauvaises coïncidences, il devient de plus en plus évident que les invités du mystérieux milliardaire sont les pions d'une sombre machination et que le où les criminels se cachent possiblement parmi eux. L'angoisse monte et chacun se retranche dans sa méfiance, tout en étant conscient qu'il a besoin de l'aide des autres pour survivre. À cette tension narrative s'ajoutent des dissensions d'ordre moral ou psychologique. Un peu comme dans la pièce « Huis clos » de Jean-Paul Sartre, il apparaît que chacun des personnages, s'il tente de projeter une image idéalisée de lui-même, a en fait quelque chose de grave à se reprocher. Ces défaillances sont d'autant plus mises en valeur que les membres du groupe sont souvent prompts à se juger les uns les autres, se confrontant avec peu de retenue, ce qui les oblige tour à tour à s'expliquer ou à se justifier. Bien que chacun craigne pour sa propre sécurité, le décès des autres, si horrible soit-il, lui paraît ainsi mérité ou, à tout le moins, appelé par le destin. Le suspense est en outre entretenu par le fait qu'on suit, en parallèle, l'évolution de l'affaire à Montréal, ce dont les sinistrés ne sont bien évidemment pas conscients. À mesure que certains des personnages décèdent, des vidéos accusatrices surgissent sur Internet pour révéler leur forfait et, surtout, pour les montrer en train de maladroitement expliquer ou rationaliser ceux-ci, ce qui est donné à voir comme un aveu de culpabilité. Les images en question sont tirées des conversations tendues ayant eu lieu au chalet, qu'on devine alors truffées de caméras. Il est donc apparent, pour le téléspectateur, que le carnage a été planifié dans les moindres détails, ce qui augure mal pour les rescapés encore en vie. La menace est d'autant plus inquiétante que les secours vont manifestement tarder à arriver, car personne ne sait où l'hélicoptère s'est posé. La série, à l'instar de plusieurs fictions policières récentes, comporte ainsi une dimension sociale. Elle s'articule autour d'une énigme à résoudre, laquelle est très bien portée par le jeu tout en nuances des acteurs interprétant les confinés ruraux, mais ouvre aussi à une réflexion morale ou éthique, dont l'intrigue est le déclencheur ou le prétexte. On est, en quelque sorte, appelé à juger non seulement les personnages pour ce qu'ils ont fait, mais aussi le châtiment dont ils sont victimes, lequel peut paraître nécessaire par l'absence préalable de toute sanction à leur mauvaise action ou, à l'inverse, totalement démesurée. L'ambiance tendue de la série est très bien soutenue par un usage judicieux des décors naturels. Des images léchées soulignent la beauté de la rivière face à laquelle les personnages sont coincés, tour à tour, nimbés de brume ou étincelantes de soleil. Le paysage est pourtant toujours désert, pour bien signifier que les réfugiés n'y sont que des intrus de passage. Si le lieu reclus est un poncif incontournable du récit d'énigmes, que l'on pense au manoir gothique ou à l'île déserte, il est souvent choisi en fonction de son incongruité, ce qui donne un certain exotisme à l'intrigue. Dans « Aller simple », la plongée dans un contexte rural typique, bien qu'éloigné, rend la situation paradoxalement familière, du moins pour le public québécois. On n'a aucun mal à s'identifier aux sinistrés, peu importe que l'on ait ou non une faute à se reprocher. Vous écoutez « Archives criminelles », un texte de Sylvain David, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. À bien des égards, « Only Murders in the Building » renouvelle la tradition fictionnelle du détective amateur dont les représentants les plus illustres sont Miss Marple et Hercule Poirot. Dans les textes originaux, les enquêteurs dilettantes sont issus des classes supérieures de la société et sont dès lors forcément, selon les préjugés de l'époque, plus perspicaces que les lourdeaux des forces policières. Les forfaits sur lesquels ils sont appelés à se pencher sont d'ailleurs presque toujours commis dans des milieux privilégiés, ce qui leur confère une dimension spectaculaire ou raffinée, loin de la vulgarité sanglante de la criminalité ordinaire. L'investigation parallèle menée par Charles, Oliver et Mabel, trois oisifs ayant le loisir de poursuivre leurs lubies et intuitions, s'inscrit manifestement dans cette veine. Le fait que les événements qui retiennent leur attention ont tous eu lieu dans une résidence sélecte d'un quartier chic de New York, comme le souligne la tournure restrictive du titre, le trio ne s'intéresse qu'au meurtre commis dans son immeuble, confirme cette inscription générique. Only Murders in the Building se distingue toutefois du récit à énigmes classique par l'incompétence et la maladresse de ses protagonistes. Si la série revient sur une forme antérieure, c'est moins pour la reconduire que pour la détourner avec ironie. Dans un même ordre d'idées, Aller Simple rappelle le huis clos mortifère d'Ils étaient dix. Dans la plupart des fictions de meurtre et mystère, le lieu reculé et exotique, une croisière sur le Nil, un trajet à bord de l'Orient Express, renvoie à des crimes commis entre membres de la haute société, lesquels reflètent peu le monde réel de la délinquance. Or, dans le roman célèbre d'Agatha Christie, les convives sans méfiance de l'île du soldat ont tous quelque chose à se reprocher, souvent par rapport à des individus d'une classe inférieure à la leur. L'hécatombe dont ils seront peu à peu les victimes apparaît comme une rare forme de justice sociale ou, à tout le moins, de moralité absolue. La réclusion mortelle dans le chalet québécois s'inscrit dans les mêmes paramètres. Les réfugiés, malgré leur disparité, sont tous issus des classes moyennes supérieures. Ils ont tous à répondre de préjudices causés à des gens ordinaires. Tant chez Christie que dans la série, l'intrigue s'articule autour de l'idée de responsabilité ou d'imputabilité. Cependant, alors que les personnages d'Ils étaient dix prennent rapidement conscience de ce dont ils sont accusés, par l'entremise d'une voix préenregistrée vindicative, ceux d'Aller Simple doivent comprendre par leurs propres moyens ce qui les réunit et, par le fait même, les condamne. La notion d'examen de conscience s'y manifeste par conséquent avec plus de force, ce qui confère une dimension psychologique accrue au récit. Là où les deux séries innovent le plus par rapport au canon Agatha Christien, c'est dans leur dimension métafictionnelle, dans le fait de jouer avec une représentation au second degré. Les détectives amateurs de Only Murders in the Building ne se contentent pas de mener une enquête en marge de celle de la police. Ils documentent soigneusement leurs efforts sous la forme d'un balado qui, en raison de son caractère atypique, connaît rapidement le succès. Paradoxalement, certains de leurs auditeurs en viennent à avoir davantage de discernement qu'eux-mêmes par rapport à l'investigation, ce qui contribue à l'effet comique de l'ensemble. Dans un même ordre d'idées, le ou les assassins, mystérieux d'aller simple, n'accusent pas directement les victimes à venir, comme c'est le cas chez Agatha Christie. Celles-ci ont plutôt droit à une condamnation publique in absentia par le biais de vidéos incriminantes versées sur Internet, lesquelles suscitent une pléthore de commentaires. De manière révélatrice, les discussions tendues qu'ont les réfugiés entre eux, alors qu'ils sont coupés du monde, font souvent écho à ce qui est dit à leur sujet sur le web. Le genre classique de la fiction de meurtre et mystère, où l'enjeu est de résoudre une énigme, et ce, tant pour le détective que pour le lecteur-spectateur, se double ainsi d'une mise en abîme, où l'un ou l'autre des pôles de l'intrigue fait l'objet d'une méta-représentation. L'enquête dans « Only Murders in the Building », le crime dans « Aller Simple ». Un tel procédé s'explique possiblement par la nécessité de renouveler un genre qui éveille encore l'intérêt, mais qui demeure, à bien des égards, convenu. On peut aussi le comprendre comme un commentaire indirect sur le monde contemporain où la moindre action est d'emblée captée, médiatisée, partagée puis archivée. Si, comme à l'époque victorienne, certains types de crimes sont encore donnés à voir comme l'apanage des classes dominantes, l'appréciation de ceux-ci comme objet de curiosité, de répulsion, d'approbation ou de blâme est désormais pleinement démocratisée et surtout se joue en temps réel à mesure que le drame se déroule. C'était « Archives criminelles », un texte de Sylvain David, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient.
Faut-il cesser de voyager? Un texte de Courtney Shea, paru le 23 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Nous posons la question à Rachel Dodds, consultante en tourisme durable. Devant les effets négatifs du tourisme sur l'environnement et les populations visitées, faut-il cesser de voyager? Je ne crois pas que la solution soit de cesser de voyager. Le voyage est une merveilleuse façon d'être moins ignorant sur le monde qui nous entoure. Il suscite de l'empathie pour différentes cultures et stimule les économies locales. Non. Il faut plutôt se demander comment mieux voyager. Aller du Canada à Amsterdam pour un week-end, puis, deux semaines plus tard, s'envoler pour Paris, illustre un des principaux problèmes du tourisme moderne. Il y a là un contre-coup environnemental auquel il faut réfléchir. Quel est l'impact du transport aérien? Considérable. L'avion est responsable de 12% des émissions mondiales de carbone et d'un peu plus de 3% des émissions au Canada. Éviter un vol équivaut à une année sans voiture. Si vous devez prendre l'avion, privilégiez le vol direct. En effet, la majorité des émissions se produisent au décollage et à l'atterrissage. Que faut-il prendre en considération avant d'acheter un billet? Certains abandonnent toute forme de décence quand ils sont ailleurs. On appelle ça l'hédonisme des vacances. Ils consomment davantage, boivent plus, urinent en public, traitent le personnel avec mépris. Un touriste a récemment lancé son scooter électrique dans le célèbre escalier de la place d'Espagne, à Rome, occasionnant des milliers de dollars de dommages. Ce genre de comportement crée des tensions entre la population locale et les touristes. Des lois ont été promulguées à Barcelone pour réduire le tourisme de masse. On a même vu, dans le célèbre parc Güell, un graffiti qui disait « Pourquoi l'appeler la saison des touristes si on ne peut même pas les abattre? » Comment en est-on arrivé là? Le voyage a toujours existé. Dans l'ensemble, l'être humain est attiré par l'ailleurs. Mais l'apparition des avions à réaction dans les années 1950 a changé la donne. À l'époque, 25 millions de touristes voyageaient à l'étranger chaque année. Aujourd'hui, ils sont près de 1,4 milliard. Et puis en même temps que le voyage devenait moins coûteux et plus accessible, on a assisté à l'émergence de la classe moyenne dans les pays auparavant en développement comme la Chine, l'Inde et la Russie. Cela s'est traduit par une augmentation du nombre de voyageurs, sans compter que la destination n'a plus d'importance. C'est-à-dire, nous ne cherchons plus l'authenticité ou la singularité. Nous voulons manger, boire, faire la fête et poster la photo d'un monument célèbre sur Instagram. Prenez les annonces des destinations tropicales. Dans bien des cas, on ne voit même pas la plage. Où est passée l'idée romantique de s'éloigner des sentiers battus? Le voyage d'aventure, il est vrai, n'a pas complètement disparu. L'Islande a lancé une campagne invitant les touristes à découvrir le pays à travers les yeux de ses habitants. Cela permet d'éviter les pièges habituels et de mieux sentir la société, son mode de vie. Mais ça n'intéresse qu'une petite portion des voyageurs. La plupart n'ont que 2 semaines de congé par an, et veulent se poser sur une plage avec un pina colada. S'ils savaient que les employés gagnent moins $1 par jour et vivent à 3 heures de bus de leur travail parce que le tourisme a détruit le logement local, en aurait-il toujours envie? Quel conseil donnez-vous pour voyager de manière plus éthique? De nombreux sites Internet recensent les centres de villégiature qui paient convenablement leurs employés ou établissent une liste des meilleurs restaurants ou boutiques régionaux. Nous votons avec le portefeuille, ne l'oubliez pas. Si personne ne va nager avec des dauphins en captivité, ces centres ne pourront survivre. 600 personnes exigent du directeur de croisière des visites guidées qui stimulent l'économie locale, la compagnie devra modifier ses pratiques destructrices. C'était « Faut-il cesser de voyager ?» un texte de Courtney Shea, paru le 23 novembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader's Digest.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Hélène Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.